Sabeduría. Estamos en fuera, ¿no? Bonsoir tout le monde, nous sommes à nouveau dans le Perek Sadek à la page Sadiqé à Moudal. Bon. Nous sommes ici donc à la page Sadiqé à Moudal dans les lignes étroites. Alors, vous voyez dans la petite marge qui est entre Rashi et le texte lui-même, c'est entre Rashi et le texte, il y a une marge, n'est-ce pas ? Une toute petite marge comme ça. Et cette marge, ce sont quatre citations du Tanakh. Là, vous voyez écrit Shin Bet Kafalesh. Vous voyez ? Shin Bet Kafalesh, vous voyez ou pas ? C'est Shmuel Bet Kafalesh. Voilà. Vous avez trouvé ? C'est exactement les mêmes. Sadiqé Amoud Aleph. Vous n'avez pas trouvé encore ? Très bonne. C'est ça. C'est ça. Voilà, il y a une confusion. Ça arrive. Alors, si je signe la page, vous voyez qu'il y a ici une marge, une petite marge. Et un peu avant l'angle, vous avez ici Shin Bet Kafalesh. Vous avez trouvé ? En lettre Rashi. Ce qui veut dire Shmuel Bet Kafalesh. Ça, c'est une citation de la Bible. Et ça commence au début de la ligne, là. Yishbi Benov. Yishbi Benov, c'est le nom d'un homme qui s'appelait Yishbi Benov. C'est pas un nom très courant, mais ça existe. Yishbi Benov. Yishbi Benov, Asher Bilide Harafa. Yishbi Benov, qui était un des enfants de Harafa. Quel drôle de nom, Harafa. Et ce Yishbi en question était un Philistin qui, d'après le texte de la Bible que nous allons voir, était un géant. Un des géants contre lesquels David a lutté. C'est-à-dire David n'a pas seulement lutté contre le géant Goliath, il a eu d'autres géants à qui il a dû s'affronter. Voilà. D'ailleurs, c'est quoi la taille de Goliath ? 1m80, c'est pas un géant. Mmh. Il y a écrit dans la Bible, Shesh Amot Vazeret, 6 coudées et un auriculaire. Ce qui veut dire, en fait, 3 mètres, à peu près. Voilà. Il avait la hauteur de 3 mètres. 3 mètres, c'est un géant. D'accord ? Bon, mais c'est pas comme Gargantua et Pantagruel, des montagnes. D'accord ? C'est un géant, enfin. Il peut y avoir des races de géants. Il y a d'ailleurs jusqu'à ce jour, il y a des tribus en Afrique noire qui font 2,50 m comme ça, sans rien. Hein ? Voilà. Bon, en tout cas, il y a aussi des pygmées. Les pygmées, ils sont petits. Bon, Veishbi Benov Asher Bilide Harafa. Donc, il y avait un géant philistin qui était de la famille de Harafa, philistin. Ou Mishkal Keino. D'ailleurs, la fameuse Harafa en question, d'après la Gemara, on va voir qu'elle est identique à Orpa. Orpa, qui était quoi ? Elle était quoi ? C'est pas Tina,
question au pape.
Au pape, c'était la grue de Naomi, au même titre que Ruth. Ruth s'est associée à Israël, Orpah a quitté Israël. De frustration, selon les Midrashim, elle est partie dans le pays des Philistins. Et elle a accouché de manière un peu tortueuse, mais enfin elle le fait quand même, elle a accouché de Goliath et encore d'autres qui étaient dans le coin. D'accord ? C'est-à-dire, entre autres, le fameux Yishbi Benov. C'est lui qui va nous occuper aujourd'hui. Quoi ?
Il
vient de Orpah. Le Yishbi Benov, ou Meder Goliath aussi, est un fils de Orpah. C'est-à-dire que, quand il, par rapport à la dynastie messianique, soit on se rapproche, soit on s'éloigne. Il n'y a pas d'indifférence. D'accord ? C'est-à-dire que, à partir du moment où elle a refusé de faire partie d'Israël, elle a donné la nuque. La nuque se dit en hébreu, en ref. C'est-à-dire elle a retourné la nuque. Et c'est ce qui a donné donc le fameux Yishbi Benov. Umishkal keno shlosh meot mishkal nechoshes. Le poids de sa lance était 300 en poids de cuivre, d'airain. Veu hagur hadasha. Il était fin, C-E-I-N-S, de nouvelles armes. Va yomer le à côté de David. Et il eut le projet de frapper David. Voilà, ça c'est le verset. Le verset est court, enfin, et la suite du verset, je vous le dis tout de suite, « Vayarazrehu Avishai ben Tseruya » et « Avishai, fils de Tseruya, aida David » et le texte continue en nous disant qu'à partir de ce jour, les héros qui accompagnaient David lui ont demandé de ne plus partir en premier à la guerre pour ne pas éteindre la lumière d'Israël. Velo Techabe et Ner Israël. Voilà. C'est ça, c'est de ces versets-là, un épisode assez court, dont va traiter la Gemara. Alors c'est quoi Mai Veyishbi Benov? Qu'est-ce que c'est que ce nom-là de Veyishbi Benov? Amar Rav Yehuda Amar Rav, Ish Sheba Al Iske Nov. C'est un homme qui est venu à cause de l'affaire de Nov. Nous avons déjà parlé la semaine dernière. Amarlo Akadosh Baruch Hu le David. Akadosh Baruch Hu a dit à David, Admatai liye avonze tamun beyadecha. Jusqu'à quand cette faute sera cachée chez toi? Aliadcha nechreva neherga. Nov et la Kohanim. C'est à cause de toi que Nov, la ville des Kohanim, a été massacrée. C'est à cause de toi que Doeg, l'Édoméen, a été éjecté, il est éjecté du Olam Haba. Et à cause de toi, Nehergu Shaul ou Shlochet Banav. C'est à cause de toi que Shaul et ses trois enfants ont été tués. Tout ça à cause de l'histoire de Nov. C'est-à-dire le décret de mort contre Shaul a déjà été issu lors du massacre de la ville de Nov, dont David était responsable indirectement. C'est un peu énorme de donner tant de responsabilité à David. Mais ça veut dire que David a une responsabilité du fait qu'il représente un stade supérieur dans l'évolution politique d'Israël. C'est-à-dire, Shaul représentait une direction politique en déliquescence. Il n'y avait plus rien. David représentait l'option alternative. Il représentait celui qui pouvait un jour remplacer Shaul et prendre le pouvoir et faire réussir les affaires d'Israël. Alors, ça ne peut entraîner que la jalousie de Shaul et donc la persécution de l'option David par l'ancien pouvoir. Imaginez une société dans laquelle les vertus antiques n'ont plus de place et qu'il y a une partie de la population, un secteur de la population qui propose quelque chose d'autre. Alors évidemment, ce secteur sera persécuté, sera dénigré dans la presse et on en dira du mal. C'est ça ? Voilà, c'est comme ça. Et donc David a une certaine responsabilité du fait que le peuple est contre lui. Enfin, en tout cas, que l'appareil politique est contre lui. Il a cette responsabilité aussi. Et quelle était la responsabilité de David? C'est pas très clair, mais en tout cas, on peut rapprocher ça du discours de Rabbi Akiva dans sa jeunesse. La Gemara nous raconte ailleurs que Rabbi Akiva, quand il était à Mahare, disait « Midit meni talmid hacham veshrenu kachamor »« Si je pouvais seulement trouver un sage pour le mordre comme un âne. » Et alors ses élèves ont demandé à Rabbi Akiva « Mais pourquoi est-ce que tu ne voulais pas le mordre comme un chien ?» Il dit « Parce que le chien, quand il mord, ne brise pas les os. Mais l'âne brise les os. » C'est-à-dire que Rabbi Akiva en voulait à l'essence des chachamim. Aïssem, ça veut dire un os, ça veut dire également atniou, c'est-à-dire l'essence. C'est que Rabbi Akiva, toujours, déjà, même quand il était contre les rabbins, cherchait toujours l'essence des choses. Donc il a pu arriver plus tard à l'essence des choses aussi, dans un autre domaine. Et donc, et les Tosfot demandent, mais comment se fait-il que Rabbi Akiva en avait tellement contre les rabbins? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait les rabbins? Il était à Maharet, d'accord? Mais nous avons la preuve du texte même de la Gemara que Rabbi Akiva était un homme moral, même quand il était à Maharet. Puisque Rachel l'a aimé, parce que justement à cause de ses midot. Donc c'était quelqu'un de bien, Rabbi Akiva. Alors, les Tosfot disent qu'en fait, les responsables de la haine de Rabbi Akiva, c'était les rabbins eux-mêmes. Parce qu'ils agissaient avec un certain snobisme. Parce qu'ils se savaient supérieurs au peuple. Et Rabbi Akiva a ressenti cette molécule de mépris qu'il y avait chez les Chachamim. C'est pour ça qu'il les haïssait. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi par la suite, Rabbi Akiva a pris comme fondement de toute la Torah « Ve'ahavta le'reacha kamocha ». Tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord ? Donc, il y a peut-être de ça. Quand on se sait le meilleur, alors on crâne un peu. On a une manière de dire « je suis le meilleur ». Il faut savoir faire évoluer la société de sorte qu'on entraîne l'adhésion de la branche dirigeante qui est maintenant disqualifiée. D'accord ? Donc c'est ça qu'on reproche à David. Mais c'est vrai que David allait prendre sa place. C'est ça, d'accord. Oui. Disons que David a en tout cas aidé Shaoul, puisqu'il faisait la guerre pour Shaoul. Il l'a aidé. Mais il y a un moment où Shaoul a pensé qu'il s'est dit « Ah, mais il va me remplacer ». Imaginez par exemple, ça me rappelle un peu le discours d'Ariel Sharon. Lorsqu'à la Knesset, il a justifié l'expulsion des Juifs de Gaza. Rappelez son discours ? Ah, il a fait un très beau discours, qui disait très clairement ce qu'il en pensait. Il disait « À mes chers frères les Mitnachalim, sachez que jusqu'à présent nous avons fait ensemble une longue route. Mais votre problème est que vous êtes messianistes. » C'est comme ça qu'il a dit, à la Knesset. Alors, c'est très fort, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une route commune, tant que l'action des Mitnachalim correspondait au projet sioniste classique de Sharon. Mais à partir du moment où il a ressenti que cela risquait de renverser ce qu'on appelle le contrat social de la société israélienne, de remettre en question les valeurs de base, alors il s'est opposé. Il était prêt à les arrêter, même au prix de la destruction de villes juives. D'accord? Ben c'est un peu ce qui se passe là aussi. Alors, qui est responsable du revirement de Sharon, hein? Ah, si on prend la Gemara au sérieux, ça voudrait dire qu'il y aurait une part de responsabilité chez la victime par rapport au persécuteur. C'est absolument incroyable ce que dit la Gemara. Bon, alors évidemment, David lui-même n'est pas responsable en vérité. Mais il est responsable d'être indirectement responsable. Alors, il y a une punition de l'indirect également. D'accord? On est toujours responsable de la responsabilité de l'autre. Oui.
Soit il était responsable de
la
vie, soit
qu'elle
n'était pas naïve,
il était
responsable d'accepter qu'on
s'est arrangé. Oui, bien sûr, il y a aussi ça. Alors c'est un peu ce qu'on reproche à David. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à David? Ressoncha Yichle Zaracha ou Timaser Beyadoyev. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères que ta descendance soit éliminée ou bien que tu sois livré aux mains de tes ennemis? Pourquoi c'est ça d'ailleurs? On lui propose pour faire l'expiation du péché de Nov. Et parce que la ville de Nov a été exterminée. Est-ce qu'il est resté quelqu'un parmi les Kohanim de Nov? Si, il y a eu une personne, et Eviatar, qui était le petit-fils de Achimélec, qui lui a été sauvé et qui est devenu grand prêtre par la suite, du temps du roi Salomon. Il était enfant. D'accord? Lui a été sauvé. Bon. Amar Lefanav, Ribono Shel Olam, Mutav Emaser Beyad Oyev, Velo Yichle Zari. Il est préférable que je sois livré aux mains des ennemis et que ma descendance ne soit pas finie. C'est-à-dire, c'est un calcul qui se défend. Mais réfléchissons bien à ce que ça vaut la peine. C'est-à-dire, il y a ici un dirigeant politique qui est prêt à se mettre en danger, le roi David. Ça veut dire quoi, se mettre en danger? C'est-à-dire, si David est en danger, c'est l'État tout entier qui est en danger. Alors, effectivement, d'un certain côté, ça a l'air très noble, mais d'un autre côté, on peut se demander si David ne fait pas une gaffe. Il va mettre l'État en danger pour sauver ses enfants. Vous voyez le problème? Il est prêt à faire quelque chose, il va mettre tout l'État en danger parce que lui est un personnage indispensable, mais pour sauver la cause de ses enfants. Oui. Pas forcément, pas forcément. On peut mettre quelqu'un d'autre. On lui a promis. Oui, mais d'un autre côté, avec un autre coup, là, il n'a pas l'air de lui dire qu'il en tient compte de ça. C'est-à-dire, si effectivement la descendance de David est exterminée, eh bien, il y aura quelqu'un d'autre qui sera roi d'Israël. Pour l'instant, le meilleur roi d'Israël, c'est David, et mettre en danger David, c'est mettre en danger l'État. D'accord? Il y a ce problème aussi. Bon, on va voir ce que ça donne. Yom Ahad, Nafak, Lishkor Bazaï. Un jour, il est sorti à Shkor Bazaï. C'est où ça, Shkor Bazaï? J'en sais rien. C'est une forêt, d'après le texte de la Gemara. Il est sorti en forêt. Ata Satan, Veidmelek et Tavia. Le Satan lui est apparu sous la forme d'un cerf. C'est-à-dire que qu'est-ce que fait le roi? Il part à la chasse. Il s'amuse. Pendant que l'État a besoin de lui, il s'occupe de ses plaisirs personnels. Il voit un cerf. Un cerf a cette particularité d'être très appétissant pour les chasseurs. Les chasseurs aiment faire la chasse au cerf, la chasse à court. Patak Begira Vela Makie. Il a lancé une flèche contre le cerf et ne l'a pas atteint. Mashre, il l'a attiré. Ad de Amtiye, le Eretz Pelishtim, jusqu'à ce qu'il l'ait amené au pays des Philistins. Ça veut donc dire que les amusements du roi, finalement, le livrent aux mains de la politique des Philistins. Il est obligé, finalement, il est emprisonné par les Philistins. Toute ressemblance est enfortie. Kidhazi Yishbibenov. Lorsque Yishbibenov a vu David, Amar, Haïnu Haïde Katle les Goliath Achi. Ah, le voilà, celui qui a tué Goliath, mon frère. N'oubliez pas que Yishbibenov, qui est le fils d'Arapha, qui habite chez les Philistins, est intéressé à venger la mort de l'autre fils d'Arapha, Goliath. N'est-ce pas? Bon. Kfate, Kamte, Utve, Veshagye, Tute, Bebadia. Il l'a attaché, l'a écrasé et l'a placé sous son coussin. Alors, vous voyez, le dessin est intéressant. C'est-à-dire David, complètement ratatiné, attaché, sous le coussin sur lequel s'assied Ishbibenov, pour l'écraser, donc, éventuellement. David a eu un miracle. Mahale Araam Mitute, la terre s'est abaissée sous lui. Et il y a eu un creux. Il y a une situation où même quand on est livré aux mains de la politique philistine, eh bien, on a quand même des retranchements. C'est-à-dire, il y a toujours comme ça des sortes de miracles qui se passent. Il lance des fusées, ça ne touche personne. Alors que dans d'autres situations, en toute logique, ça aurait dû tuer des milliers de personnes. Ben non, il rate tout le temps. Il y a eu un miracle. C'est vrai que les Philistins se renforcent, mais le roi est quand même sauvé par un miracle. Ça peut durer longtemps ? Non. Il y a un moment où ça ne dure plus. Mais enfin, pendant un certain temps, comme disait Ben Gurion, en Israël, celui qui ne croit pas au miracle n'est pas réaliste. Il faut être réaliste. Donc il y a des miracles, ça fait partie de la politique. Bon. Haïlou dirtiv, et c'est pourquoi il dit Tarhiv tsa'adi tahtai velo ma'adu kasulai. Tu as élargi mes pas sous moi et mes chevilles n'ont pas flanché. Bon, tout ça n'est pas très agréable. Ça se passe quand tout ça? Haou yoma apanya de ma'ale shabtahava. Ce jour-là était un vendredi après-midi. Tout ça se passe un vendredi après-midi. C'est quoi le vendredi après-midi? Hein? La veille du sabbat. C'est quoi la veille du sabbat? Eh bien, c'est l'approche du sabbat. C'est quoi le sabbat? C'est le monde parfait, n'est-ce pas? Donc, c'est quoi le vendredi après-midi? Ben, c'est l'approche des temps messianiques. C'est-à-dire, c'est quand l'histoire est en train de s'achever. C'est-à-dire, au moment où il y a donc la faiblesse du roi David, qui le fait accepter les emprisonnements de la politique des Philistins, eh bien, c'est le moment où l'histoire a la chance, a une possibilité d'être réussie. On attend de David d'être le Mashiach. Il fait des gaffes dans sa politique. Il aurait pu être le Mashiach. C'est ça? Alors, c'est le moment où ça se passe. Et, mais qu'est-ce qui fait que David est entraîné? Il est entraîné par ses illusions. Le cerf en question, ce sont les illusions que tout ira bien, qu'avec les Philistins tout ira bien. Il suffit simplement d'aller s'amuser un peu à la chasse. Avishai ben Tseruya hava kahayif reshe be'arba garbe de maya. À ce moment-là, Avishai ben Tseruya se lavait la tête, c'est vendredi après-midi, avec 4 cruches d'eau. Ah bon? Ça veut dire quoi qu'il se lavait la tête? Ça veut dire que quand tout le monde est mevulba, il y a quand même des gens qui gardent la tête froide, qui sont pas si bêtes que ça, qui voient que la situation est dramatique. Il était en train de se laver avec 4 cruches d'eau. Pourquoi 4? C'est les 4 lettres du nom de Dieu. C'est ça? C'est-à-dire, il a l'esprit clair. Hazinu Kitmedama, il a vu des taches de sang. Et il a compris que ça allait mal. Il a vu des taches de sang. C'est quoi on voit des taches de sang? Ben parfois il y a des attentats, il voit qu'il n'y a plus de sécurité, il y a des taches de sang. Alors, il te dit, il faut faire quelque chose. Ika de Amre, certains disent, Atayona itrifkame, une colombe est venue piailler devant lui. Amar, Knesset Israël, les Yonaïm Tila. L'assemblée d'Israël est comparée à une colombe. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Kanfe Yonah Nerpava Kesef, c'est comme des ailes de colombe qui sont recouvertes d'argent. Shema Mina, cela veut donc dire, David, Malka de Israël, Betahara Share, que David, roi d'Israël, se trouve en détresse. Il y a toujours. Au moment du vendredi après-midi, au moment où on est en train d'achever l'histoire, il y a des personnes lucides
qui, elles, se rendent compte de la gravité de la situation et qui prennent des décisions quand elles voient des taches de sang. Voilà, vous avez compris ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut agir selon des voies légales quand la situation est grave ? C'est ce qu'il faut voir. Atta l'évêté, l'Ashkéré, il est allé dans la maison du roi, il ne l'a pas trouvé. C'est-à-dire qu'il est allé voir dans les institutions politiques, il a vu que c'était vide. Tout le monde était en enquête policière. Amar, il s'est dit, Tnan, la Mishnah enseigne, Ein Rochvin al Susso, on n'enfourche pas son cheval, le cheval du roi. Vein Yoshvin al Kiso, on ne s'installe pas sur son siège. Vein Mishtamshin Besharvito, on ne se sert pas de son sceptre. Bishat Asakana Mai, mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a danger? Ata Sha'il Ben Midrasha, il est allé demander au Beit HaMidrash, c'est-à-dire qu'il est allé s'enquérir chez des autorités rabbiniques qui, elles, connaissent un peu ce genre de problème. Vous comprenez, il y a toujours, donc je reprends, il y a des personnes lucides qui, en cas d'état grave de l'État, comprennent que s'il y a carence des institutions politiques, puisque la maison du roi est vide, qu'il faut interroger les rabbins pour savoir ce que l'on fait. Qu'ont dit les rabbins en question ? Ah, ça c'est des vrais rabbins. Amroulé, Bishat, Sakana, Sapir Dame. S'il y a danger, tu peux le faire. C'est-à-dire, tu peux même barrer les routes, tu peux même faire des actions illégales, ne serait-ce que pour sauver la situation. Rachvé, l'épirdé. Il a enfourché la mule du roi. Vekam, Veazal, il est parti. De Jérusalem au pays des Philistins. Ça prend combien de temps, ça? À d'autres mules, ça prend combien de temps? Une journée à peu près, n'est-ce pas? C'est vendredi après-midi, il pense y arriver? Alors comment il a fait? Ve'azal kafta le'ara. La terre a sauté pour lui. Il y a un miracle. Alors si il y a un miracle, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'enfourcher la mule? Il faut faire un effort. Il faut un effort, ce qu'on appelle stadout. On commence, si on fait ce qu'il faut, à ce moment-là, je m'en trouve à t'aider. Bahadé, les kamasgé, alors qu'il était en train d'avancer, hazié, les orpa, hime, deavat, navla. Il a vu orpa, la mère de Yishbi Benov, qui était en train de tisser. Elle faisait la quenouille, pardon, navla. Elle était en train de filer, voilà, de filer, avec sa quenouille. Ça veut dire quoi que la mère de Yishbi Benov file avec sa quenouille? Elle est en train de préparer quelque chose. Elle tisse des plans. C'est ça? Tout ça nous dit pendant tout ce temps-là, David est écrabouillé sous le coussin sur lequel Yishbi Benov est installé. C'est ça? Mais, alors, c'est la mère de. C'est-à-dire la théorie politique qui se cache, la théorie des flags, spirituelle, qui se cache derrière les intentions philistiniennes, eh bien, c'est en train de filer. C'est en train d'élaborer quelque chose. Peut-être un état, comme ça. Bon. Donc, il voit Orpa. C'est-à-dire que Avishai ben Tsiruya n'est pas n'importe qui, il va au fond des choses. Il ne voit pas seulement le danger direct de Yishbi Benov contre David, il voit également les intentions générales de l'ennemi. Kihazite sakta lepilcha. Lorsqu'elle l'a vu, c'est-à-dire Orpa, lorsqu'elle voit Avishai, coupe son fil, shadite illave, et jette sa quenouille contre lui. Savra lemichtele, elle espérait le tuer. D'ailleurs, c'est une quenouille, c'est lourd. C'est ça, vous avez déjà vu une quenouille, vous? Vous avez jamais vu? Hein? Oui? Oui, c'est lourd, mais à part ça, c'est pointu. Ça peut tuer, n'est-ce pas? Donc, elle essaye de tuer Avishai avec sa quenouille. C'est-à-dire qu'elle va tenter également des attentats, en tout cas des actions meurtrières, contre cette partie de la population qui, elle, peut encore sauver la situation. C'est ça? Toute ressemblance, évidemment, est fortuite. Amr Ale, elle lui dit, Aïlem, Aïtéli, place. Elle dit, amène-moi, elle a raté, elle dit, amène-moi la quenouille. Parce que Beresh Moha Uktala, il a lancé sur sa tête et l'a tué. Avishai a tué la mère de Goliath. C'est-à-dire qu'il c'est lui qui détruit les velléités théoriques qui se cachent derrière les intentions des Philistins. C'est-à-dire c'est lui qui peut donner la réponse idéologique aux intentions des Philistins. Kad Hazie Yizvimenov, et il arrive donc à proximité de Yizvimenov, Yizvimenov le voit. Ama Hasta Havu Bi Tren de Kathleen Lee. Ah, maintenant ils sont à deux, ils vont me tuer. Il a eu peur. Il a eu peur d'une coalition entre David, avec toute sa faiblesse, et Abishai Ben Tseruya et sa lucidité. Oui. Pourquoi est-ce qu'Abishai a besoin? Ben pour tuer une personne, il a besoin d'un homme. Ah ben voilà. Parce que, alors là, le truc est absolument incroyable. Parce qu'elle est David l'Aïla. Ce que fait donc Yishbi, il sort David de dessous le coussin, il le jette en l'air. Védatle les rouhé, et il a planté sa lance. Ama nipol alav inigdal, se disant que David allait tomber sur la lance et se faire tuer. C'est ce qu'on appelle le bilboquet. D'accord? Et alors, il se sert de sa lance, il jette David pour que David soit empalé sur la lance. Hein? Une brochette, exactement. Et il y a des armes secrètes qui sont utilisées en cas de nécessité. D'accord? Ama Nipol Alev Iliktal. Ama Avishai Shem, Ukmel et David Benchmael Ara. Avishai a prononcé le nom de Dieu. Et donc David est resté planté, comme ça, en l'air, entre le ciel et la terre, suspendu. D'ailleurs, David n'est pas dans une très bonne situation, mais enfin, pour l'instant, on a arrêté le processus. C'est-à-dire qu'il y a parfois des processus très dangereux, qui risquent de mettre à mort l'État. Alors, au moins, arrêtons le processus. Le problème n'est pas encore réglé. David est encore en l'air, et la lance est encore sur la terre. Mais on peut essayer. Faisons quelque chose. Comment est-ce qu'on le fait? En invoquant le nom de Dieu. Ça veut dire quoi? La prière. Il y a parfois les prières, ça marche. Parfois, oui. Par exemple, dans l'histoire de Gush Katif, par exemple, il y avait une situation où l'État était en danger à cause d'une politique palestinienne qui happait les dirigeants, qui se sont laissés, disons, envoûtés par des serfs palestiniens. Et il y a eu tentative d'arrêter ça. Il y a eu des prières. C'est ça? Hein? Ah ben, parfois ça marche. Mais ça a marché. Ça a repoussé de 3 semaines, cette histoire. D'accord? Bon. Hein? Ça s'est réalisé quand même. C'est pour ça que je vous dis que ça marche pas toujours. Mais enfin, parfois les prières ça marche. Mais quelquefois,
ça fait.
Oui? Je ne sais pas. Maintenant, il faut essayer de voir qu'est-ce que ça signifie dans le projet de la Hashgacha, je veux bien. Mais enfin, le fait est là. D'ailleurs, ici, Abishai fait un miracle et ça marche. Ça marche. David reste en l'air. C'est-à-dire qu'il y a une situation instable du point de vue politique. Vini male ihu. Alors, pourquoi est-ce que David lui-même ne l'a pas fait? Si le nom de Dieu peut interrompre le danger de David. Alors si Abishai Ben Tseruya est capable de le faire, à plus forte raison, David aussi est capable de prononcer le nom de Dieu et de s'en sortir. Ah. Le principe est En Havush Matir Atmo Libet Asuri. Le prisonnier ne veut pas se libérer lui-même de sa geôle. C'est-à-dire qu'il y a des situations où on est tellement, disons, emprisonné dans ses conceptions, qu'on a besoin d'une intervention extérieure pour s'en sortir. Même si on est soi-même très intelligent et qu'on a du mérite et qu'on est un héros d'Israël. C'est ça? Bon. Quoi? Non, c'est pas ça qu'il y a écrit. C'est Enchavis, Enchavouche, Matir à son. De toute façon, je lis ici le texte de la Guémara.
Mais parce que c'est son propre honnête, alors que
J'ai compris votre interprétation. Le problème, c'est pas ce que dit la Guémara. J'aimerais bien que ce soit ce que dit la Guémara, mais c'est pas ça qu'elle dit. Elle ne rentre pas dans les considérations de Sakhar Varonesh, de rétribution. Ce que dit la Guémara, elle dit simplement, il ne peut pas se libérer lui-même de son emprisonnement. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien dans la réalité. Les gens sont souvent emprisonnés dans des conceptions erronées, et ils font toutes les bêtises du monde alors qu'ils sont capables d'aider les autres. C'est ça ? J'ai connu le cas, par exemple, d'un psychologue qui aidait beaucoup de gens et qui lui-même faisait toutes les gaffes psychologiques du monde dans sa famille. Ça arrive. C'est une question de honnêteté. Excusez-moi. Amarle, my baitacha. Il lui demande, qu'est-ce que tu fais là ? Alors, vous voyez, donc la scène est intéressante. Avishai est en bas, David en haut, il y a la lance en dessous, et Ishbi Benov qui attend que David veuille bien tomber. Et alors Avishai et David commencent un dialogue. Qu'est-ce que tu fais là ? Alors il lui dit, my baitacha. Amarle, achi amarle, écoute ça de l'écho. Voilà ce que Dieu m'a dit, voilà ce que je lui ai répondu. C'est quoi? C'est-à-dire que Dieu m'a dit que je devais être puni pour l'histoire de Nov, et j'ai accepté d'être livré aux mains de mes ennemis plutôt que de faire du mal à mes enfants. C'est ça? C'est-à-dire, il reprend cette histoire d'avant. Amarle à Pirtelota. Il dit, inverse ta prière. Barbera Kira Lisboun, que le fils de ton fils vende de la cire. Veatatitsaer, et que toi, tu n'es pas de peine. Sinon, toi, tu n'en as rien à tirer. C'est-à-dire, ce que dit ici Avishai, il dit, écoute, il y a un problème immédiat, c'est de sauver le roi d'Israël. C'est pas toi en tant que personne individuelle, il faut sauver la situation. Alors, il y a des cas où il vaut mieux que ta famille individuelle subisse les sévices de la loi, du décret divin, peut-être qu'ils iront en prison, peut-être qu'ils vont être attaqués pour malversation, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, toi, il faut que tu sortes de là. Amarle, Iachi, Saya, Baadan. Alors, David lui dit, si c'est comme ça, il faut que tu mettes. Haïnou, Dirtiv, c'est pour ça qu'il est dit, Vaya, Zorlo, Avishai, Ben Tseruya. Que Avishai, Ben Tseruya l'a aidé. Amar, Aviouda, Amar, Shazaro, Bichila. C'est-à-dire qu'il l'a aidé par la prière. Amar Avishai Shem Verte. Avishai a prononcé un autre nom de Dieu et a fait descendre David. C'est-à-dire maintenant, David et Avishai sont au sol. Hava Karadiz Batraihu. Et il s'est mis à leur poursuite. C'est-à-dire que Yishbi Benov, le géant, se met à la poursuite de David et Avishai. Kimata Kobe, Amre Kumbe. Quand ils sont arrivés à un endroit du nom de Kobe, je ne sais pas où c'est, il dit, viens, on se lève contre lui, Kumbe. Kimata Betre, quand ils sont arrivés à Betre, Betre c'est probablement Betar. Betar est un lieu de bravoure. Amre Betre Gourian, nous sommes comme deux lionceaux. Katlua Le Aria, qui peuvent tuer un lion. C'est-à-dire deux lionceaux sont assez forts pour tuer un lion. Amrele, après qu'ils ont fait, ils ont dit au géant, Zil istekar le orpa in mer bekivra. Va, ta mère Orpa est dans la tombe. Ki adkeroule shma deime kahasrele. Lorsqu'on lui a rappelé le nom de sa mère, il a perdu sa force. Vekatle, et il l'a tué. David a tué Ishbi. C'est-à-dire, lorsque le Philistin se rend compte que le fondement théorique de sa revendication a disparu, c'est sous la forme de Orpa, la mère d'Arafat, qui dit, non, Orpa ou Arafat, c'est la même chose, lorsque Arafat est mort, alors ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de force. Alors on peut le tuer. Drôle de nom, ça. Un rachat. Bon. Ah, il nous dit-il, et c'est pourquoi il est dit, « Azishbu anche David lo les morts », c'est alors que les hommes de David jurèrent, en lui disant, « L'otete orditanu la milhama, tu ne sortiras plus avec nous à la guerre. Et lo techabe etner Israël, tu n'éteindras pas la lumière d'Israël. » Bon, alors, donc, finalement, ce qui s'est passé, c'est que David s'en est sorti, mais sa descendance a souffert beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qui s'est passé avec la descendance du roi David. La descendance du roi David a une tendance assez particulière à être en danger permanent d'extermination. C'est vrai. Par exemple, lorsqu'il y a eu d'abord, avant la descendance du roi David, l'ancêtre du roi David. Qui sont les premiers ancêtres de David? Qui? Hein? Oui, qui sont les ancêtres de David? Commençons par le début de toute l'origine de la lignée. Avant. Non, Adam Harishon, c'est l'ancêtre de toute l'humanité. La branche davidienne, d'où elle vient? Hein? Bon, avant. Remontons un peu avant. Lot. Voilà, ça commence avec Lot. C'est-à-dire, il y a la famille d'Abraham, il y a la famille de Lot. Lot est toujours autour de David, enfin autour d'Abraham. Il est là, en fait, pour donner naissance à la lignée messianique. Ça commence par Lot. Qu'est-ce qui se passe avec Lot? Eh bien, il risque l'extermination. Et ses filles se rendent compte qu'il risque de ne plus avoir de descendance à Lot. Et donc, par des voies extrêmement détournées, finalement, vont naître Moab et Amon, qui vont permettre l'apparition de la dynastie davidique. Allons un peu plus loin, nous arrivons à Yehuda. C'est ça? Yehuda avec qui? Tamar. Qui est à Bru, et quand il voit que sa descendance risque la disparition, puisque Er et Onan sont morts, alors il essaye d'éviter le remariage de Tamar. Tamar ne se laisse pas faire, elle se déguise en prostituée, elle couche avec Yehuda. Yehuda apprend que sa bru est enceinte, il ne sait pas que c'est de lui, et il décide de quoi? De la brûler. C'est ça? Avec le bébé qu'elle a dans son ventre, qui sont d'ailleurs des jumeaux. Si Tamar est brûlée, il n'y a plus de descendants de David. Il n'y a même pas la famille de David. In extremis, Tamar est sauvée par un stratagème. Et alors ça arrive plus tard à l'histoire de Ruth et Boaz. Boaz était de la famille, était une famille éloignée de Elimelech. Elimelech qui faisait également partie de la dynastie davidique. Ah non, j'oubliais encore un autre chez nous. Nachshon ben Aminadab, qui était prince de Juda, et qui était également un descendant de Peretz, fils de Yehuda. Lui aussi, il a failli y passer. Vous savez comment? Il est entré dans la mer, il aurait pu se noyer. Et à chaque fois, il y a ce danger. Après, on arrive à Ruth et Boaz. Alors, la famille d'Elimelech est exterminée, il n'en reste plus rien, Mahlon et Chilion disparaissent. Orpa devient philistine, Ruth à peine acceptée, elle est épousée par Boaz. Quel âge avait Boaz lorsqu'il a épousé Ruth?
70 ans.
Non, 86 ans. 86 ans, il avait eu, d'après, là, si on veut l'identifier avec Ifsan de Bethléem, il avait eu 60 enfants auparavant. D'après la Guémara, tous les 60 enfants sont morts. Parce qu'il n'avait pas invité Manoah à son mariage, enfin une histoire, à dormir debout. Et donc, il a 86 ans, il n'a pas d'enfant, il a toutes les chances de mourir sans laisser de descendance. In extremis, il épouse Ruth, et il meurt la nuit même. Mais Ruth est enceinte. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois une sorte de constance comme ça, dans la dynastie davidique, avant même cette histoire que nous lisons là, cette constante qui est le fait qu'il y a un fil extrêmement ténu qui est à chaque fois mis en danger parce que c'est ça qui va sauver le monde entier. Or, quand quelque chose est là pour sauver le monde entier, ça attire l'opposition du reste du monde, parce que c'est une particularité. C'est comme l'antisémitisme. L'antisémitisme vient de la spécificité d'Israël.
C'est ça, il y a le
contraire. Il y a toujours une opposition de la nature contre ce qui est exceptionnel par rapport à la nature. C'est un enseignement du Maharal. Le Maharal de Prague explique, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est séparé des autres, il attire l'opposition. Alors après, ça se passe avec l'histoire du roi David, qui d'ailleurs lui-même a été évacué de la famille parce qu'on pensait qu'il était un mamzer. Finalement, il s'en est sorti grâce au roi, grâce au prophète Shmuel. Et puis après, ça continue avec ses descendants. On arrive à l'époque de Athalia. C'est ça ? Athalia, la reine d'Israël, la reine de Yehuda, pardon, qui décide, dans sa méchanceté, de décimer la famille du roi David. C'est ça ? Elle fait tuer tous les descendants d'Achaziaou. Achaziaou, c'est son mari, qui était roi de Yehuda. Elle réussit, sauf un. Il y a un enfant qui est sauvé par une, non pas par la prêtresse, pas par le prêtre, la femme, mais par une servante qui l'amène chez le grand prêtre. C'est l'enfant Yoas, qui grandit en secret dans le temple et qui un jour fait un coup d'état et renverse Athalie. N'est-ce pas? D'ailleurs, il y a un drame de racine qui s'appelle Athalie. Rien à voir d'ailleurs avec la famille Athalie, mais c'est pas pareil. On en arrive après à la descendance de Yechonia, le dernier roi de Juda, c'est ça, qui est emmené en captivité à Babylone. Il est remplacé par un autre roi, son oncle Tiskia, qui finalement se fait assassiner par le roi de Babylone, lui et ses enfants. Et donc le dernier rejeton de la dynastie de David, c'est Yechonia. Yechonia est en prison. Par des voies détournées, on lui introduit sa femme dans sa fosse et il la fait enceinte en station debout. Ce qui est d'ailleurs en soi un miracle, parce que d'après la Guébara, en général, de cette manière-là, on ne peut pas devenir enceinte. Mais enfin, elle est devenue enceinte, elle donne naissance à Pedaïa, qui va donner naissance à Zerubbabel, qui sera prince de Juda du temps du retour des captifs. D'accord ? Vous voyez que ça continue. Et puis, après, on arrive à une chose encore plus tardive. C'est l'époque de Marzoutra, à la fin de l'époque talmudique. Vous savez qu'il y a eu toute une dynastie des descendants du roi David qui ont continué à régner sur les Juifs de Babylonie pendant toute l'époque du deuxième temple. C'est-à-dire alors qu'en Eretz Israël, il y avait d'abord des préfets perses et grecs, et puis après les rois asmonéens qui ont pris le pouvoir, c'est les Kohanim. Parallèlement, dans l'empire perse et parthe, il y avait les descendants de David qui continuaient à régner en exil sur les Juifs de Galut. C'est ce qu'on appelait le Res Galuta. En français, ça se dit d'un très beau nom, l'exilarque. C'est-à-dire le roi des Juifs en exil. Et bon, l'exilarque était en général nommé par le roi de Perse. Jusqu'à l'époque de Guise des Gardes. Guise des Gardes II, qui était roi de Perse. Guise des Gardes II était un fanatique. Il a décidé d'imposer la religion perse à tout son empire. La religion du feu, la Ouramazda, le Mazdéisme, ça s'appelle. Alors évidemment, les Juifs ne se sont pas laissés faire, ils se sont révoltés. À la tête des révoltés, il y avait le Res Galuta. Il s'appelait Marzoutra Ier. Marzoutra Ier fait la guerre. Pendant 2 ans, il y a un état indépendant des Juifs en Babylonie. Finalement, le roi de Perse mate la révolte, fait mettre à mort Marzoutra et toute sa descendance. Mais il y a un enfant de Marzoutra qui s'appelait Marzoutra II. ou en hébreu, on dit Marzoutra ben Marzoutra, qui lui s'enfuit et arrive à Tibériade en Eretz Israël pour y fonder la yeshiva des Géonim d'Eretz Israël. C'est pas fini. Après tout cela, il y a l'histoire de Boustenaï. Vous avez entendu parler de Boustenaï? C'est pas l'histoire. Il y avait, à la fin de l'époque perse, en Babylonie, il y avait un autre roi qui s'appelait Yisdegard III. Ne pas confondre avec Yisdegard II. C'est pas des noms à donner, hein. Yisdegard. Enfin bon, Yisdegard III a eu un rêve. Comme quoi, la descendance de David lui voulait du mal. Alors il a décidé d'éliminer, les uns après les autres, les descendants du roi David. Et, bon, il y a eu un rêve qu'il y avait, que le roi David lui est apparu, lui disant qu'est-ce que tu fais avec ma descendance, etc. Finalement, Yisdegard III s'est fait assassiner. Et il s'est fait assassiner par qui, soit dit en passant? Par le quatrième calife de l'islam, le troisième, pardon, qui s'appelait Ali. Ali qui était le beau-père, et il était beau-père et neveu de Muhammad. C'est lui qui a fait la conquête. Hein? Son gendre. Ça, pardon. Gendre et oncle, ça. Il était oncle et gendre, à la fois. Ça. Oncle et gendre de Muhammad. Ali. Ali ibn Abu Talib. C'est lui qui a fait la conquête de l'Irak, et qui est donc a démembré l'empire perse de l'époque, et qui donc a tué Yisdegard, et a pris en captivité les deux filles d'Yisdegard. Il demande qui est ici le représentant des Juifs, alors on lui amène le dernier escapé, Boustenaï. Mais apparaît un autre candidat qui dit non, c'est moi. Alors bien embêté, le calife se demande enfin qui est le vrai roi des Juifs. Et puis il voit que, pendant l'entretien, une mouche pique le front de Boustenaï. Et que Boustenaï ne fait rien pour empêcher la mouche de le faire. Et pourquoi est-ce que tu ne chasses pas la mouche? Il dit parce que dans ma famille, nous savons qu'on ne lève pas la main en présence d'un roi. Ah, dans ce cas-là, c'est donc toi le vrai. Et donc, il fait de Boustenaï le nouveau Resh Galouta. Histoire absolument incroyable. Et il y a une autre histoire aussi de la même époque, enfin bon, et l'histoire va se finir sur la famille du roi David qui toujours risque d'être exterminée. Soit dit en passant, pour récompenser Boustenaï de sa fidélité, Ali lui offre une des filles du roi de Perse. Et il en prend une pour lui et une pour Boustenaï. Ils deviennent ainsi donc des beaux-frères. Comment c'est-il que Boustenaï ait épousé une Goya? Ça, c'est tout un problème. Mais enfin, toujours est-il que ça continue comme ça, jusque vers l'an 1054. En l'année 1054, hein, à nouveau des persécutions contre la Rachout Agola, l'exilarca est supprimé. Une partie des descendants du Resh Galouta s'enfuit en Espagne. Et là-bas, à nouveau, la famille est persécutée par les Espagnols, qui n'aiment pas tellement des descendants de rois, et ça a donné d'ailleurs plusieurs familles qui ont dû souvent se cacher. Une des familles en question, c'est la famille Ochayoun. Ochayoun. Les Ochayoun sont des descendants de ces familles-là. Effectivement, ils se sont fait également zigouiller souvent par l'Inquisition, etc. Alors voilà, c'est pour tout vous dire que ça continue. C'est-à-dire, les problèmes de la dynastie de David ne sont pas finis, ça continue depuis l'époque en question. Maintenant, pourquoi est-ce que finalement, si David a accepté que sa famille soit exterminée, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été totalement exterminée? Ben parce que chez les prêtres massacrés à Nov, il y en a quand même eu un rescapé. S'il n'y avait pas eu de rescapé du tout, eh bien la descendance de David aussi n'aurait pas été rescapée. Voilà. Bon, continuons. Le Mashiach doit venir de David. Ce qui veut donc dire que ça n'aurait pas pu se passer qu'on tue le dernier de Nov. Ça va ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas également exterminer la dynastie du grand prêtre. Oui? Oui. Qui? C'est-à-dire, bah, il explique qu'on a Boustenaï avait deux femmes. Une qu'on appelait Haïvria et l'autre qu'on appelait Apartia. La première, c'était la juive, la deuxième, c'était la femme. Alors pendant plusieurs générations, il y a eu des débats autour de ça à Babylone. Les descendants de la femme juive disaient que les descendants de la femme perse étaient leurs esclaves. Parce qu'elle était son esclave. Donc les descendants sont les esclaves. Tandis qu'eux disaient, non, bah, c'est pas du tout notre mère, notre ancêtre s'est converti, et donc nous sommes dignes d'être des rachés galouillottes autant que vous. Effectivement, il y a eu tout un débat autour de ça, et d'ailleurs, pendant plusieurs générations, parfois, le Rosh Hagola était descendant de Boustenaï par la femme hébraïque, et parfois par la femme perse. Finalement, le problème a été réglé après un siècle par un des descendants de Boustenaï qui s'appelait Rav Sar Shalom Gaon, qui était de la lignée hébraïque, pas de la lignée perse, et qui a décrété qu'il est impossible de penser que Boustenaï ait épousé une Goya sans la convertir, et donc les enfants de l'autre lignée sont cachés. Voilà. Ça a été réglé. Ouf. D'accord ? Mais ça a mis quand même un siècle. À peu près. 100 ans. Aftar Shalom Gaon. Heureusement que c'était de la descendance de l'autre lignée, parce que comme ça on l'a cru. Enfin voilà. Oui. Oui, mais ça a continué. C'est-à-dire l'histoire de Noé n'est qu'une des expressions de cette tendance permanente. Cette tendance permanente à... Non, c'est pas la raison. C'est un prétexte. Il y a toujours quelque chose qui met en danger la dynastie du relais. D'accord ? Bon. Maintenant, vous vous rappelez qu'on avait dit que Avishai en question a eu une clicade derrière. C'est-à-dire la route a été plus vite pour lui. Alors, la Guémara en parle au passage. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné, Shlosha Kafta Laem Haaret. Il y en a trois pour qui la terre a saussé. Eliezer, Eve d'Abraham, Eliezer, le serviteur d'Abraham, Ve'yaakov Avinu, ça vous le connaissez, Ve'avishai ben Tseruya, ainsi qu'Avishai, fils de Tseruya. Avishai, quel était son rapport de famille avec David? C'était son neveu, ce qu'on appelle du népotisme. Ça. Alors, Avishai ben Tseruya a d'Amaran. Ça, on a déjà raconté l'histoire d'Avishai ben Tseruya. Eliezer et Abraham. Comment est-ce qu'on le sait pour Eliezer? Parce qu'il est dit va avo ayom el ha'ayim. Je suis arrivé aujourd'hui à la source. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Le jour où Abraham m'a parlé. Les mêmes bras, daou yana nafak. Ce qui veut dire que c'était le jour où il était sorti. C'est-à-dire qu'Eliezer a fait la route en un jour. À quoi ça sert que pour Avishai, on avait compris, il y avait un danger. Donc il était nécessaire que les événements aillent plus vite. Mais pourquoi est-ce qu'il était nécessaire que Eliezer arrive le jour même? Ça aurait pu faire, ça aurait pris encore deux semaines.
La fille
en question. C'est-à-dire, à partir du moment où elle apparaît, eh bien c'est le moment. Donc on ne peut pas retarder. C'est un enseignement du Maharal de Prague qui est que tout ce qui se passe selon la nature demande du temps. Mais quand quelque chose est au-delà de la nature, il n'y a plus de temps. Par exemple, lors de la sortie d'Égypte, il est dit « Bersit Pazon » Tu es sorti en précipitation d'Égypte. Ou bien, lorsque dans l'histoire du rouleau d'Esther, il y a, comment elle s'appelle, Haman, que l'on amène à toute vitesse au festin. Vayab Hilou et Haman. On empressa Haman. Alors que jusqu'à présent, ça avait pris 9 ans. C'est-à-dire, depuis le début de la Megillah, sont passés 9 ans. À partir du moment où la Géoula se fait, ça va à toute vitesse. Pourquoi? Parce qu'on dépasse le temps. On est au-delà de la nature. Et donc, ceci est passé également pour Abraham. Il fallait que ce soit cette nuit-là, ce jour-là. Et remarquez, dans le texte qui raconte l'histoire de Rivka, il y a quelque chose qui revient tout le temps. Vatemaher, elle s'empressa. Elle écrit plusieurs fois qu'elle a fait vite. Pourquoi elle a besoin de faire vite? Parce que Eliezer est arrivé à la source quand? Un peu avant le coucher du soleil. Et dans sa prière, il dit à Akadosh Baruch Hu, Hakrena lefanai hayob, fait advenir devant moi aujourd'hui. Donc il fallait que tout soit fini avant le coucher du soleil. Donc, elle, intuitivement, a compris qu'il fallait faire vite. C'est ça? C'est souvent comme ça. Il y a des moments où on voit que les choses se font plus vite. C'est-à-dire, c'est le principe de Hayom Kassar va Melacha Meruba. Le jour est court et le labeur est abondant. Vapoalim Aselim, les ouvriers sont paresseux. Ou Bala Baï Dochek et le maître de maison pousse. C'est quand ça? Et bien, certains commentateurs disent qu'il s'agit du vendredi après-midi. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans l'histoire où tout va plus vite parce qu'on est dans une cuisine juive le vendredi après-midi, en train de préparer le Shabbat. Ce qui explique pourquoi ces derniers temps, on voit que, depuis une centaine d'années, les événements vont très vite. Et ça va de plus en plus vite. Et on ne s'en rend pas compte, on ne sait même pas ce qui se passera dans un mois en Israël. Tout va très vite. C'est ça. Donc c'est ça qu'il dit, « Va voir Yon Elahin, les mémoires d'Aouyomanafak », ça veut dire que c'est ce soir, ce jour même qu'il était arrivé, qu'il était sorti. Yaakov Avinu. Et pour Yaakov Avinu, dirtiv, ainsi qu'il est dit, ah, et vous n'avez pas la suite. Hein? C'est ça. Vaïf Garba Makom. Et alors? Alors, voilà. Alors, c'est-à-dire, c'était, oui, c'est le jour même qu'il était revenu à toute vitesse, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'il a fallu que ça aille si vite pour Yaakov Avinu? Eh bien, c'est la même chose. Il va épouser Rachel et Léa. C'est vrai qu'il a dû prendre 7 ans pour le faire. Mais la rencontre doit se faire le jour même. Il doit rencontrer Rachel le jour où il est envoyé. C'est ça? C'est parce que c'est de ça que dépend le sort de l'humanité. D'accord? Alors, maintenant, la Guémara continue à parler de Yaakov, mais ça, on le verra, hein, les grâces à la prochaine fois avec la photocopie du texte que vous n'avez pas encore. Baruch Adonai Eloh Olam. Amen, amen. Rabbi Hanania, Ben Akashia Omer, Rasa Akadon Baruch Hu, les Akotes d'Israël. Les Kichach. Irba lahem Torah umitzvot. Sheneemar, Adonai Hafei Shema Tikko, Yagdil Torah, Veyadir.
Amen.